L'émission Les Capsules du Patrimoine déchiffre une époque, une architecture ou un savoir-faire pour mieux comprendre d'où on vient et où on va. L'équipe du service inventaire du Pays Midi-Quercy vous fait part de ce qu'elle a découvert par le biais de ses recherches. Aujourd'hui, dans Les Capsules du Patrimoine, la ligne Montauban-Lexos est ouverte en 1858. Pendant presque 100 ans, les trains ont circulé et desservi plusieurs gares situées en bordure d'Aveyron, dont la voie suit le plus souvent les courbes. Créé à l'origine selon une logique étrangère à l'intérêt local, l'établissement de ce tronçon a tout de même eu des conséquences sans précédent dans cette partie du Tarn-et-Garonne. La voie est fermée en 1955, puis reconvertie dès 1957 en route touristique très appréciée par tous, tant les paysages traversés sont fantastiques. C'est parti pour 20 minutes d'immersion en archéologie ferroviaire à la recherche des traces de cette voie ferrée disparue avec Sandrine Rueffli et Carole Stanicki. Bonjour toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, en effet, comme tu viens de le dire, il s'agit un petit peu d'archéologie ferroviaire, c'est à savoir de rechercher les lignes ferroviaires disparues, de repérer le matériel, les bâtiments, les gares, les maisons de garde barrière. Mais repérer aussi les traces, il y en a plein, hein, les passages à niveau, les traverses, souvent quand la voie est déferrée, après on retrouve des traverses qui sont réutilisées dans des bâtiments à proximité, pour des barrières, pour des marches d'escalier. Les traverses, ce sont les grosses parties en bois, hein, qui sont sur le ballast de la voie ferrée. En fait, la thématique de la voie ferrée, c'est une thématique qui est assez prisée et il y a énormément de recherches et de gens qui s'y sont intéressés. On va vous donner essentiellement deux références. La première, il s'agit d'un ouvrage, Les Piquets de l'Aigle, qui a été rédigé en 1982 par Claude Armel et Gabriel Elias sur Saint-Antonin, ce qui est vraiment une mine d'or, hein, pour tout ce qui est voie ferrée de ce secteur. Et enfin également le blog d'un monsieur qui s'appelle Jean-François Locke. Et c'est un blog qui est alimenté depuis 2002, qui est très riche également sur les tramways Tarn-et-Garonne et la voie ferrée dont on va vous parler aujourd'hui. Donc le tronçon qui nous intéresse aujourd'hui, on a dû en choisir un, on a choisi celui qui fait Montauban-Lexos. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, il y a un maillage vraiment serré de voies ferrées sur tout le territoire, puisque chaque voie devait atteindre le moindre chef-lieu de canton. Donc il y a des lignes d'intérêt local, hein, les tramways dont on vous a déjà parlé ici à CFM, et puis il y a aussi les grandes lignes. Là, le tronçon dont on vous parle, ça fait partie des grandes lignes. Hein. Et puis ben, il a disparu, comme les lignes de tramway. Et pourtant, ce trajet Montauban-Lexos, pendant quelques années, au milieu du 19e siècle, ce sera l'unique itinéraire pour se rendre à Paris, hein, tout de même. Donc c'était capital pour la région. La gare de Lexos, durant les années 1860-1880, c'était un véritable carrefour ferroviaire. À la confluence du coup de trois lignes, celle qui fait Montauban-Lexos, celle qui fait Carmaux-Vindrac, et enfin la troisième, Brive-Capdenac-Toulouse. L'ancienne ligne, donc Montauban-Lexos, elle suivait les méandres de l'Aveyron. C'est assez repérable dans le paysage, hein, aujourd'hui, puisque cette voie ferrée, aujourd'hui, elle suit le parcours de la route départementale numéro 115, qu'on appelle ici la fameuse route touristique, qui est une très belle voie aujourd'hui appréciée, hein, par tous. Et d'ailleurs appréciée également à l'époque, puisque je vais vous lire un extrait du courrier de Tarn-et-Garonne de mai 1858, donc ça a été rédigé vraiment au moment où la voie ferrée a été achevée, et vous verrez, c'est assez éloquent sur la qualité de ce parcours. Je vous le lis. On peut affirmer hardiment que le railway de Montauban à Villefranche est le tronçon le plus admirable que les ingénieurs français aient mis jusqu'à ce jour à exécution. De Montricou à travers Bruniquel, Penne, Laguépy, Saint-Antonin, Najac, jusqu'au commencement de la vallée fertile qui finit à Villefranche, la voie ferrée serpente comme l'Aveyron et semble s'enlacer avec cette fraîche rivière. Tantôt elle la côtoie, tantôt elle la franchit audacieusement, tantôt elle la repousse, la domine, tantôt enfin elle la quitte pour la rejoindre bientôt encore. Rien ne l'intimide, ni les roches 100 fois plus dures que l'acier, ni ses abîmes profonds, ni les montagnes escarpées. Par la volonté savante de nos ingénieurs, l'Aveyron et la voie ferrée formeront désormais, on peut le dire, une tresse prodigieuse. Tout ce que la science la plus haute a pu deviner, tout ce que la hardiesse la plus froidement réfléchie a pu imaginer, tout cela se trouve et se voit dans ce réseau fabuleux. Et si nous ajoutons que les beautés naturelles les plus inconnues et les plus émouvantes luttent d'une manière incessante avec les merveilles de l'art, nous n'aurons donné qu'une idée imparfaite de ce qu'on peut éprouver en le parcourant. Vous voyez que vraiment, en 1858, l'effet que fait la construction de cette voie ferrée, c'est dans l'ordre du spectacle, en fait. C'est saisissant, c'est presque fantastique, hein, la manière dont est accueillie cette voie ferrée en Tarn-et-Garonne. Alors cette ligne, vous voyez, est un peu décrite de manière hors norme, mais c'est vrai que du temps de son exploitation, il s'agit vraiment d'une ligne hors norme parce qu'elle est d'une part construite très tôt. On est entre 1853 et 1858. Elle est construite sur des seuls capitaux privés. En fait, la desserte locale n'intéresse pas les promoteurs de la ligne. D'ailleurs, les promoteurs, ce sont des hommes d'affaires, hein. Le climat est assez libéral. C'est une ligne qui devait faire partie d'un ensemble... un grand ensemble très ambitieux qui a été voulu par la compagnie du Grand Central. Alors, le Grand Central, c'est un terme qui copie le nom des lignes américaines et anglaises. On pense au Central Pacific, la compagnie américaine historique, hein, la première qui était liée à la conquête de l'Ouest. Et le but initial donc, en Tarn-et-Garonne de cette ligne, c'était à la base d'évacuer la production minière du bassin d'Aubin, qui est près de Decazeville en Aveyron, mais aussi des productions des forges, des fameuses forges de Bruniquel. Alors la compagnie du Grand Central fait faillite hein, en 1857, alors que la ligne est presque achevée. Et la ligne est reprise par une autre compagnie bien connue qui s'appelle la Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans. Et c'est elle qui la gère hein, durant toute sa durée. C'était une ligne qui avait vraiment de grosses ambitions puisqu'elle a été prévue à double voie à la base. Mais en réalité, elle n'a toujours été exploitée qu'en une seule voie. Vous ne verrez pas quatre rails, mais seulement deux sur cette voie-là.
Les capsules du patrimoine, à propos de cette voie ferrée Montauban-Alexos, elle passe par quelle gare ?
Alors en effet, si je vous fais une petite description de cette ligne à vol d'oiseau, il y a 8 stations. Donc il y a la première, la plus grosse, le départ Montauban. Ensuite Saint-Étienne de Tulmont dans la plaine, Nègrepelisse en bordure d'Aveyron, puis Montricou, Bruniquel, Casals, Saint-Antonin, Feignerolles et enfin l'Exos. Donc c'est une ligne qui est longue de 67 km. Sur cette ligne, il y a beaucoup d'ouvrages d'art, d'infrastructures ferroviaires qui ont été conservés. Donc, en effet, c'est 8 gares, mais ces gares sont accompagnées de halles de marchandises. Il y a aussi des maisons de garde barrières sur les passages à niveau. Il y a des tunnels, des ponts, des murs de soutènement. Tous ces bâtiments-là sont assez reconnaissables dans le paysage. C'est une architecture qui est assez similaire à celle qu'on retrouve un peu partout en France. Hein. Et donc, c'est bien conservé. En Tarn-et-Garonne. En revanche, ce qui a disparu, évidemment, c'est le matériel roulant. Hein. Et là, il y avait 131 voitures, 225 wagons plats, il y avait 200 wagons de houille et de minerais, 28 locomotives. Voilà, tout ce matériel-là, par contre, a disparu, bien sûr. Le bâtiment le plus emblématique, vraiment, de cette ligne, c'est la gare de l'Exos, puisque c'est le carrefour ferroviaire et c'est vraiment l'emblème, en fait, de cette époque prospère. La gare de l'Exos, c'est assez fabuleux quand on y arrive, puisqu'elle est démesurée, elle est totalement inattendue en ces lieux. Elle est par sa monumentalité, surtout. Et elle a été comparée à la gare d'Austerlitz, en miniature, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a quelques points communs. C'est une architecture de briques et de pierres, de style néo-renaissance. Elle est si importante qu'elle a quand même été inscrite monument historique en 2007. Donc voilà ce qu'il reste de cette ligne. Alors après, il est intéressant quand même d'expliquer comment ont commencé les travaux, parce qu'il faut imaginer au milieu du 19e siècle qu'il a fallu, pour créer cette ligne, niveler tout sur tous les reliefs, hein, à savoir sur le passage, il y avait des rochers, des collines, des vallons. Il a fallu vraiment tout niveler, terrasser. Donc il y a eu besoin d'une main-d'œuvre colossale, en fait, en ouvriers, terrassiers et autres, durant ces grands travaux qui ont duré quelques années. Donc ça a engagé sur le territoire en fait un véritable boom économique, hein, puisque par exemple, juste pour la région de Saint-Antonin, en 1855, il y a tout de même 848 ouvriers qui sont employés. Hein. Donc là, le plus souvent, sont les ouvriers des environs, mais il y en a qui venaient également d'ailleurs.
Et en tout, on a dénombré 2000 ouvriers qui ont œuvré à la réalisation de la ligne.
Je ne vous oublierai jamais, Je ne vous supplierai jamais, même si mon nom ne vous dirait rien. J'avais toujours des pensées pour vos amis, vos frères, vos parents, pour qui moi je n'étais rien du tout. Je n'ai jamais su voler dans le vent. J'ai réparé ma moto bien trop longtemps. Sur le bitume, j'ai laissé traîner mes dents. Le jour plongeait doucement. Jamais, je crois je roulais trop vite encore. Personne ne viendra m'aider. Je ne vous supplierai jamais, mais c'est vous qui m'oublierez demain. Ma vie ne vous disait rien de rien. De mon village envoyé.
Les capsules du patrimoine sur CFM à propos de la voie ferrée Montauban-Lexos et son âge d'or, assez bref.
Alors effectivement, l'apothéose de cette ligne, c'est en 1862. Donc l'âge d'or a été de courte durée, hein, moins de 6 ans, donc entre 1858 et 62. L'ouverture de la voie de chemin de fer va engendrer un regain économique, on va exploiter les carrières et créer des activités extractives. On voit une multiplication des ouvertures des carrières, de calcaire, de chaux, de phosphate, et ce à Saint-Antonin, à Bruniquel ou encore à Caylus et Montricouin, mais également à Varin aussi. Là, on est plutôt au début du XXe siècle, et c'est grâce à la proximité de cette voie ferrée et évidemment grâce à la qualité du calcaire qu'un four à chaux est construit près du hameau de Lexos. Et puis très vite, un four à ciment est ajouté par la Société des chaux et ciments de Lavazière. Cette période, c'est aussi l'émergence et l'apogée des spécialités fourragères. Il y a là une réussite spectaculaire, puisque ce commerce était quasiment nul en 1850, et en 1902, Saint-Antonin est une des premières gares fourragères du département. Si bien qu'au début du XXe siècle, Saint-Antonin et Bruniquel sont les premières gares d'expédition de matériaux et d'engrais. Il faut dire aussi que la ligne a également contribué à un développement touristique. On est toujours là au début du XXe siècle et cette ligne permettait aux curistes de rejoindre Saint-Antonin pour profiter des thermes et du grand air. Alors comme on peut l'imaginer, c'est une véritable mise en scène que découvrent les voyageurs et les curistes de l'époque lorsqu'ils arrivent par le train. Face à eux, sur l'autre rive de l'Aveyron, ils découvrent le quartier des Thermes avec le grand bâtiment des Thermes qui a été construit entre 1913 et 1920 et en partie balayé durant la grande crue de 1930. Il y a également les hôtels qui l'entourent, la promenade et en premier plan l'escalier monumental sur la berge de l'Aveyron.
Mais le déclin de cette voie ferrée Montauban-Lexos a déjà commencé dès les années 1880.
Oui, effectivement, le déclin débute dès 1884 avec la création de la ligne concurrente Paris-Toulouse via Cahors et Limoges. Celle qui est encore en circulation aujourd'hui, hein, à Albias, Réalville, Caussade. C'est une ligne qui est plus directe et moins accidentée et qui va effectivement amorcer le déclin de l'ancienne ligne. Il y a également que cette ligne n'a pas été revitalisée. Quasiment aucune modernisation depuis sa reconstruction et aucun effort sur les tarifs. À la veille de la Première Guerre mondiale, prendre le train pour les habitants reste un luxe. Et puis, également un autre facteur, c'est la concurrence de la voiture. L'utilisation de l'automobile qui se développe entre les deux guerres absorbera une partie de la clientèle du réseau ferré après la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, après cette Seconde Guerre mondiale, on croit avoir trouvé la solution pour sauver les petites lignes. On invente l'autorail léger FNC, qui devait permettre la reprise rapide du trafic ferroviaire destiné au service omnibus des lignes secondaires. Donc dans ces petits trains, il y avait petits trains qui mesuraient 11,40 m, il y avait 43 places assises à bord. Prenons place à bord de l'un de ces autorails en gare de Lexos. Nous sommes en 1947. Écoutez cette archive SNCF.
En 1947, les autorails FNC assurent, à partir du 4 mai, le service voyageur entre Montauban, Lexos et la Guépie. Trois allers et retours par jour. Faisons une partie du trajet. En gare de Lexos, les voyageurs prennent place. Nous sommes à Fénérol, dans le couloir de l'Aveyron. C'est aux portes de Saint-Antonin que les eaux de Fénérol, rivales de Cap-Verne, offrent aux étrangers la visite du vieux château et l'enchantement du parc ombreux de la station. L'Aveyron traverse un défilé étroit dont quelques points peuvent soutenir la comparaison avec les gorges les plus renommées. Le voyage est agréable dans cet autorail FNC, où l'on dispose de tout le confort possible. Et voici Saint-Antonin, blotti sous la célèbre falaise du roc d'Anglard, une des cités les plus curieuses de la vallée de l'Aveyron. Tout y est à voir, mais surtout son monument, le plus ancien hôtel de ville de France. Nous partons vers Penne, qui dresse, encore menaçante, les tours d'un manoir qui était déjà au XIIIe siècle, la plus forte citadelle que possédait le comte de Toulouse dans l'ensemble de ses états. Nous venons de quitter Bruniquel, dominé par le château de Bruneau, auquel il doit son nom. Bruniquel est une des stations préhistoriques les plus riches de France. L'autorail FNC va arriver au terme de son voyage, Montauban, la plus rose des villes roses. Perché au bord du Tarn, Montauban découpe sur le ciel du midi la pittoresque silhouette de ses clochers et de ses tours. Il offre aux visiteurs le régal artistique de la place nationale, si originale avec sa double rangée d'arceaux, de ses monuments remarquables et de ses musées d'une incontestable richesse.
l'archive qu'on vient d'entendre à l'instant sur l'autorail. Il faut savoir que ça a duré pendant que quelques années, ça a été assez bref, puisque le premier autorail en France, il date de 1947. Et donc, ça a été mis, ils ont circulé sur la voie de Tarn-et-Garonne juste pendant quelques années. Donc ça ne fonctionne plus à vapeur, hein. Ce sont des gros moteurs diesel de 300 chevaux, donc on s'éloigne vraiment des premières locomotives qui ont circulé sur cette ligne. On est presque plus proche du moteur poids lourd, hein, en fait. Et d'ailleurs, le constructeur de ces autorails, c'est Renault.
Alors, la dernière Micheline qui circule sur cette ligne Montauban-Lexos s'arrête le 1er août 1955 et mettra fin à presque un siècle de règne du transport ferroviaire tout de même. La ligne est reconvertie dès son déclassement en 1957, comme l'a dit Carole tout à l'heure, en route touristique. Et à partir de cette date, les maisons de garde barrières et les gares sont vendues à des particuliers. Vous pouvez encore en voir aujourd'hui, elles ont souvent été agrandies ou modifiées. Mais vous les reconnaîtrez grâce à cette architecture spécifique en moellons de calcaire avec des encadrements en briques et des chaînes d'angle en briques. Il subsiste toute l'architecture ferroviaire sur cette ligne, Il subsiste plutôt toutes les gares de voyageurs, excepté une, c'est celle de Montricou. Hein, pour la gare de Montricou, on peut encore voir la gare de marchandises, mais plus la gare de voyageurs. Alors aujourd'hui, la ligne est encore bien présente par son tracé qu'accueille la route départementale touristique 115. On vous invite d'ailleurs en cette saison estivale à l'emprunter pour retrouver les paysages spectaculaires qu'offrent les gorges de l'Aveyron.
Sandrine Rueffli, Carole Stadnitzky du service inventaire du patrimoine du PETR Midi-Quercy, merci beaucoup.
Merci.
Merci, au revoir.
Les capsules du patrimoine, une émission depuis le pays Midi-Quercy, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr avec le soutien du programme européen Leader, la région Occitanie et le département du Tarn-et-Garonne.